Cet épisode est sponsorisé par User Testing. User Testing est une solution de collecte de retours utilisateurs et d'insights clients. Dans ce podcast, on parle souvent de la nécessité de tester son produit pour savoir ce qu'en pensent réellement les utilisateurs. Avec User Testing, vous pourrez facilement recruter vos clients et des utilisateurs pour tester vos interfaces, que ce soit un site web, une application ou même des maquettes. Les retours obtenus sur User Testing vous permettront de savoir ce que pensent vraiment vos utilisateurs de vos interfaces et de prendre les bonnes décisions d'évolution pour vos designs. Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmermann et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Bienvenue Francis dans ce nouvel épisode de Design Journeys.
Salut Gauthier, merci pour l'invitation.
Avec plaisir, je suis très content de te recevoir. Alors, je le dis souvent à mes invités car c'est toujours le cas, mais je suis encore plus content de te recevoir cette fois toi, car tu es le premier lettreur et typographe que je reçois dans l'émission. Donc, on va pouvoir aborder des sujets que je souhaitais aborder depuis super longtemps dans l'émission. Mais avant tout ça, Francis, est-ce que tu voudrais bien te présenter et nous dire qui tu es, s'il te plaît ?
Alors, je suis Francis Chouquet, je suis graphiste à la base depuis une quinzaine d'années. J'ai bossé pendant très longtemps dans le web, notamment autour de WordPress. J'étais designer WordPress, j'ai fait un peu de dev, j'ai écrit un bouquin sur WordPress qui est sorti en 3 éditions. Je me suis intéressé à la lettre assez rapidement puisque j'aimais bien faire des designs assez neutre, enfin je sais pas comment expliquer, assez minimaliste on va dire, mais où la typo avait un peu son intérêt et toute sa place. Et puis progressivement, j'ai créé en 2010 ou 2011 avec un copain, Aurélien Foutoyer, un blog qui s'appelait Beautiful Type, qui était sur Tumblr, qui a eu, je crois que c'est 130 000 abonnés à un moment donné. Et puis, on s'est intéressé au lettrage, on a beaucoup communiqué sur différents artistes et tout. Et moi, vu que j'ai beaucoup dessiné dans ma jeunesse, j'ai commencé à dessiner des lettres. J'ai adoré ça. J'ai commencé à mettre les identités, le côté branding dans mon portfolio, faire des logos, des choses comme ça. Et puis ça a pris de plus en plus de place. Et en 2014 à peu près, j'ai commencé à faire des choses un peu plus lettrage, je vais pas dire classique, mais des choses un peu plus de l'illustration typographique, des posters, des t-shirts, des choses comme ça. J'ai fait un gros workshop avec quelqu'un qui s'appelle Ken Barber à New York en 2015. Et à partir de là, je suis revenu de New York en me disant « je veux faire que ça ». Et depuis, je fais que ça. Alors, que ça, pas complètement, parce que je fais aussi, depuis 2017-2018, de la création de police de caractère. J'ai pris un cours de type design à l'université, ici au Beaux-Arts de Bâle. Et depuis, je jongle un petit peu. Enfin, je fais beaucoup plus de lettrage que de typo pur, mais j'adore un peu jongler entre les deux. Et puis voilà. Depuis, ça fait 6 ans que je fais ça, 6-7 ans maintenant que je fais ça que ça en fait. Et puis voilà, ça me plaît bien.
Super. On va pouvoir revenir sur tout ça et sur tout ce que tu fais aujourd'hui. Il y a juste un point que tu n'as pas donné sur ton parcours et j'aimerais bien m'y intéresser. C'est que tu as commencé par une école de commerce.
Ouais, tout à fait.
J'aimerais savoir à quel moment tu as décidé de faire du design. Est-ce que tu étais déjà passionné par le design avant de faire une école de commerce et que tu as choisi ça parce que c'était un vrai métier, entre guillemets
Ouais, mais il y a un peu de ça, ouais.
Ouais.
En fait, quand j'étais gamin, j'ai beaucoup dessiné. vraiment tout le temps. J'étais un grand passionné. Mon père était moitié, enfin un peu artiste peintre à ses heures, son temps libre. Et moi, j'ai beaucoup dessiné. Et à l'école, au début, je voulais être architecte. On m'a dit, oh, tu sais, les architectes, pour un qui fait un bon boulot, t'en as 99 qui s'ennuient dans des projets au quotidien. Donc j'ai dit bah pff, ouais. C'était début des années 90. Donc tout ce qui était design et tout, bah fallait faire une filière L. Et puis on me disait oui, mais t'as des bonnes notes à l'école, donc tu devrais faire une filière S. Donc j'ai fait une filière S que j'ai redoublée. J'ai eu mon bac en 2 ans. Mais la deuxième année, j'avais des bonnes notes. Donc j'ai postulé dans des écoles de commerce. Donc je suis allé au groupe ESSEC à Cergy-Pontoise. Et j'y suis resté 4 ans, dont 1 an aux États-Unis. Et effectivement, j'étais assez branché marketing, j'étais très branché communication. On faisait des sortes de projets d'entreprise dans l'école où je faisais les storyboards. On faisait des avec un pote, on avait fait un projet de pub irlandais où fallait faire la compta et tout, et moi je m'occupais du logo, enfin de choses comme ça. Et donc quand j'ai fini mes études, j'ai fait un master en logistique industrielle. Alors qu'est-ce que c'est un foot là-dedans? Je faisais mes stages, je trouvais pas trop de stages en com, en pub et tout ça. C'était assez difficile. Il y avait pas mal aussi moi j'étais issu de la campagne, j'avais pas vraiment de billet d'entrée dans ce monde-là, et les gens que je connaissais qui rentraient, ben ils avaient papa ou maman qui bossait déjà dans le business, donc c'était plus simple. Et donc j'ai fait mes stages en usine, en logistique, du supply chain management, comment on appelle ça. Puis j'aimais bien, c'était pas désagréable. Et puis quand j'ai fini mon école de commerce, c'était un peu la galère pour trouver du boulot, donc j'ai dit bah je vais faire un master en logistique, comme ça ça a fait une spécialisation et je trouverai plus facilement un boulot, ce qui a été le cas. Je suis entré dans une très bonne école à Subdeco Bordeaux. J'ai fait 1 an de master, j'ai trouvé du boulot avant d'être sorti. Donc je suis allé bosser à Paris chez Soprasteria, une grosse boîte d'ingénierie informatique. Et là, j'ai fait de la logistique pendant 3-4 ans, gestion d'entrepôt, gestion de transport. Mais bon, encore là, quand j'y repense maintenant, ce que je préférais, c'était rédiger des documents, de la documentation, par exemple. Moi, j'aimais pas Word, et je l'aime toujours pas d'ailleurs. Mais j'adorais faire ça, imprimer, relire, mettre en page. Enfin bon. Et puis je faisais aussi, on faisait des solutions spécifiques pour des solutions informatiques spécifiques pour des entreprises. Je dessinais les écrans aussi. Donc je faisais déjà un peu du X et du UI. Ça a été. Je sais pas comment expliquer ça. Au bout de 3 ans, 3 bonnes années, je me sentais pas à ma place. J'étais en costard cravate tous les jours. Je voyageais beaucoup dans des coins paumés. Au fur et à mesure des années, le stress de ce genre de métier, où tu étais un peu ce qu'on appelle en anglais les cubicles, là, les c'est un peu des cages à lapins comme bureau, être habillé en costard cravate tous les jours, et puis c'est aussi vivre sur Paris tous les jours, 1 heure à 1 heure et demie de trajet le matin, pareil le soir. C'est devenu très difficile, et ça s'est traduit à un moment donné par des crises d'angoisse, des attaques de panique. Je me suis retrouvé sur l'autoroute à un moment donné, complètement bloqué sur une aire d'autoroute, en train de me demander ce qui est en train de m'arriver. Et puis, c'est à partir de là où j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Donc, sur la vie de ma femme, et après pas mal de demandes de sa part, je suis allé consulter une psychologue. Et puis après plusieurs séances, plusieurs semaines, on s'est rendu compte que en fait j'étais pas forcément fait pour ce genre de vie et que moi ce que je voulais au fond de moi-même, enfin en fait j'ai fait des choix on va dire plus par rapport à ce que l'entourage ou la société demande, c'est-à-dire t'as la possibilité de faire des bonnes études, donc tu fais des bonnes études et puis tu continues comme ça, alors que moi ce que j'aurais voulu ou ce que je demandais en fait c'était être proche de la nature et puis dessiner, enfin faire du graphisme. Il y a pas mal d'illustrations aussi dans ce que je réfléchissais. Et donc ce qui s'est fait à ce moment-là, c'est que je suis allé donc moi j'ai quitté mon job. Et puis 3-4 mois après, ma femme a été mutée en Belgique. Donc on est allé en Belgique et là, par le plus grand des hasards, je saurais pas comment te dire comment ça s'est passé, mais j'ai rencontré une artiste peintre qui était aussi qui faisait du compagnonnage. Donc c'était quelqu'un qui était assez connu en Wallonie et qui avait un grand atelier où elle accueillait toutes les semaines une bonne dizaine d'artistes peintres. Et elle transmettait son savoir et tout ça. Et puis elle m'a invité à venir une fois. Et puis j'y suis resté 2 ans. Donc
ah ouais.
Et donc ça a tout changé. Enfin, ça a tout changé sur le principe. Ça a tout changé dans le sens où j'ai trouvé vraiment ma place. J'aimais ce que je faisais. Je me débrouillais pas mal. Après, il y avait toujours ce côté oui, mais bon, c'est pas un vrai job. Et des choses comme ça. Donc c'est pour ça un peu que je me suis bifurqué un peu sur le graphisme, qui était un peu plus cadré, on va dire, que d'être artiste peintre.
Mais là, du coup, pendant ces 2 années, c'était vraiment juste de la peinture, c'est ça? C'était rien de digital, c'était
Non. Okay. J'ai fait de l'acrylique et de la peinture à l'huile non-stop en étudiant les peintres flamands primitifs et italiens de la Renaissance, et j'ai fait que ça. Et j'ai lu énormément sur tous ces trucs. Donc je trouvais un sujet qui me passionnait, quoi.
Et qu'est-ce qui fait que, enfin, et comment tu l'expliquais, ce qui fait que t'as changé, c'était entre guillemets pour retrouver un vrai métier.
Ouais.
Mais comment justement tu passes de la peinture au graphisme digital?
Alors, ce qui s'est passé, enfin, là où ça a commencé, c'est que après on a déménagé de Belgique en Suisse, où on est toujours aujourd'hui. Donc ça fait 15 ans qu'on est là. Et là j'ai pris des cours du soir aux Beaux-Arts pour continuer un peu mon apprentissage. Et j'ai fait un peu de peinture et j'ai commencé à faire une ou deux expos. Et je me suis installé dans une pièce en bas de chez nous, un petit bureau avec. Je me suis acheté mon premier Mac, un grand écran, une tablette graphique. Et je me disais je vais commencer à j'aimais l'outil informatique hein, déjà à la base, donc quand j'étais en école de commerce par exemple, je faisais le fanzine de l'école sur Quark Express, j'utilisais Photoshop déjà, donc je connaissais un peu tout ce matos. Et puis j'ai voulu faire en fait ça a commencé par le web, parce que j'ai voulu faire mon site web. Donc je me suis acheté un bouquin, alors en plus je supportais pas, enfin j'ai pris Dreamweaver que je supportais pas, donc je me suis mis au HTML, j'ai fait mon site de A à Z entre HTML et CSS, et puis après c'est là où j'ai découvert WordPress, j'ai fait un blog, j'ai publié pas mal d'articles, et puis je suis arrivé dans la sphère un peu comme ça, quoi. Et le graphisme est arrivé au fur et à mesure, quoi.
Ok, t'as appris sur le tas en faisant tes sites. J'ai lu, avant peut-être qu'on parle de WordPress et de justement tout ce que t'as dit, j'ai vu dans ton parcours que t'étais passé aussi par une agence, c'est ça?
Ouais.
C'est là tu faisais quoi? Tu faisais que du graphisme ou c'est là où t'as commencé à travailler sur du WordPress ou,
Ouais, j'ai que du web.
Ok, donc là ton objectif c'était de designer des
sites
template
web.
WordPress pour les
gens. Ouais, ou des sites web. J'ai toujours aimé toucher au HTML pur, tu vois, pas passer par des gros outils. Ça m'arrivait de faire des petits sites web pour des vitrines, des petites vitrines, des choses comme ça, quoi. Dans ces années-là, on faisait des sites web pas encore trop complexes. Mmh. Et donc
c'est dans les années 2000, donc le
ouais, 2000, 2007, 2008 à peu près. Ouais, même avant, même 2006, 2007, je dirais.
Donc l'iPhone n'était pas encore là, en train de tout changer.
Ah non.
Et après justement, après cette expérience-là, tu cofondes ta boîte.
Ouais.
Pour créer des... C'est pareil, sous forme d'agence où tu réponds à des clients
En tant qu'indépendant, plutôt. En fait, j'ai bossé avec ma femme jusqu'en 2011 sous l'entité de Wydot. Les gens me connaissaient plus par mon nom, en fait, que par la boîte sous laquelle je facturais, entre guillemets. Donc, on était plus... moi c'était vraiment mon blog WordPress qui m'amenait du boulot au quotidien, quoi.
Et c'est intéressant parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as écrit 3 bouquins dessus. C'est marrant, en faisant mes recherches, je suis pas tombé dessus.
Ouais, ça remonte à il y a un moment, mais bon, c'est ouais.
On en reparlera de tout ça tout à l'heure.
Ouais.
Mais du coup, qu'est-ce qui fait que... j'ai vu qu'en 2013, tu avais arrêté cette activité-là. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, tu n'as plus envie de travailler sur cette expertise que tu avais? Voilà, c'est ma première question.
Alors j'aime bien faire plein de choses. Donc, mon grand malheur, j'ai envie de dire. Donc, 2013... disons que dans ces années-là, je faisais de plus en plus d'identité, ça me plaisait de plus en plus, et le marché de WordPress devenait plus difficile en tant que designer, parce que en fait, il y avait de plus en plus de thèmes, de templates WordPress, et donc les clients préféraient mettre 50 balles dans un template qu'ils allaient essayer de modifier par eux-mêmes, plutôt que d'aller mettre 2-3 000 balles minimum pour demander à quelqu'un de faire un design. Donc il y avait du travail au niveau du dev, mais au niveau du design il y en avait de moins en moins. Et puis j'avais l'impression aussi que ça devenait quelque chose qui était de plus en plus technique et de moins en moins design d'une certaine manière. Et tu vois, là j'étais en train de faire un... Alors ça évolue beaucoup, mais dans les thèmes qui se vendent encore aujourd'hui, je trouve que ça a pas trop évolué depuis 5-6 ans. J'avais fait un peu le tour et puis je commençais un peu pas vraiment à m'ennuyer. J'aime toujours regarder un peu ce qui se fait et l'évolution, mais le reste commençait à prendre le pas et puis j'avais un peu envie aussi de passer moins de temps derrière l'écran et à coder et à essayer de trouver des solutions pour des sites web, quoi.
Je vois. Je viens de noter 2 trucs, papa. Ce que tu viens de dire, c'est d'abord, tu faisais de plus en plus d'identité graphique. Comment tu t'es mis à faire ça? Comment tu t'es mis à travailler dans l'identité graphique en passant du web design à la...
Alors, en fait, c'était souvent lié. C'est-à-dire que je faisais le logo, l'identité globale et puis le site web. Donc c'est arrivé de temps en temps où les gens venaient me voir liés au site web et je proposais l'identité avec. Et puis au fur et à mesure c'est devenu visible et donc les gens venaient me voir pour du logo.
Donc
c'était à peu près dans les mêmes années, hein, c'était entre 2012-2014. Et j'ai fait un gros projet web qui était pour Century 21, qui était pas du WordPress, mais qui était du design. Et ça m'avait donné beaucoup de visibilité. J'avais refait le site France pour Century 21. Et puis, plus dans le côté communautaire, j'avais fait toute l'identité d'UpQuest. Une entreprise qui travaille dans la qualité web, qui ont tout un référentiel... Et donc, ces gens-là, je les avais rencontrés parce que je faisais pas mal de conférences à Paris Web. Et j'avais rencontré Elie Slohim, qui est le dirigeant. Et on a sympathisé, on a fait... ce qui était bien à Paris Web, c'est que tout le monde se connaissait un petit peu via les blogs plus que les médias sociaux en ce temps-là. Et donc, on a sympathisé tous. Et puis, à un moment donné, il lui arrivait l'envie de refaire l'identité. Donc, il m'a demandé. Et on a fait ça, c'était un super beau projet. Et puis, bah, comme sa boîte avait une certaine aura dans la communauté web française, eh ben, ça m'a donné encore aussi un peu de visibilité et d'aller toucher un peu d'autres clients, quoi.
Ok, donc si je comprends bien, c'est encore une compétence que tu as appris au fur et à mesure,
ouais,
sur le tas. Ok, cool. Tu as aussi dit tout à l'heure que tu étais un touche-à-tout à ton grand malheur. Pourquoi tu, ouais, dis ça?
Parce que je commence beaucoup de choses et que parfois j'ai du mal à les terminer. Genre mes polices.
Ok.
Non, c'est en fait ça fait partie d'un tout, c'est-à-dire que j'ai découvert il y a peu de temps que j'avais un problème de déficit de l'attention, donc un je sais pas si on peut dire un syndrome ou quoi, mais un truc qu'on appelle le TDAH, donc trouble du déficit de l'attention et hyperactivité. Et en fait, ça a mis un terme sur pas mal de choses qui fonctionnaient bizarrement, j'ai envie de dire, et notamment cette bougeotte un peu de devoir toucher à plein de trucs. De, tu vois, je faisais du web, mais je faisais déjà un petit peu. Enfin, je faisais encore de la peinture. Après, j'ai fait un peu d'illustration. Je me suis mis au lettrage. Et puis moi, j'avais cette tendance à un moment donné que j'avais besoin de que le changement passait par un changement de métier et c'était un peu problématique, c'est-à-dire que plus j'avançais, plus le web je voulais plus en faire, et que par contre je voulais faire du lettrage parce que c'était là où je me sentais le mieux, et du coup bon, j'ai fait ça, mais je suis parti sur Instagram, j'ai commencé à faire plein de choses en lettrage, je voyais des nouveaux trucs. En plus, t'as pas un style bien affirmé. Donc, tu testes plein de choses différentes. Et c'était, en fait, j'avais plein de brouillons. Je faisais plein de brouillons. Et il y a plein de choses que je finissais pas. Alors que quand je remettais le nez dedans, je me disais, ah, c'est quand même bien. Mais quand je le faisais, en vrai, je me disais, ah, mais j'ai envie de faire autre chose. Et puis, en fait, je pense qu'il y a à la fois le fait de découvrir quelque chose de nouveau, et aussi le fait de il y a une sorte d'excitation qui fait que t'as envie de faire plein de choses. Et dans mon travail de typo pur, c'est un travail de longue haleine, et je pense que j'ai du mal à garder la motivation pendant suffisamment longtemps. Donc faut que le projet soit pas trop long. Mais bon, là j'en ai sorti 3, et il y en a une, ça a duré, j'ai mis 1 an et demi pour la sortir. Donc je vais bosser dessus comme un fou pendant 3 mois. Après je reviens dessus sur certains trucs. En fait ça va être et ça arrive chez beaucoup de typographes, c'est comme ça. C'est-à-dire que toute la partie dessin c'est génial, la partie vectorisation ça se passe plutôt bien. On commence à faire des épreuves pour voir un peu comment tout fonctionne ensemble et ainsi de suite. Puis dès qu'on commence à passer l'espacement, le crénage, le kerning, tout ça, y en a vite marre. Et puis on arrive à 85-90%, et puis pouf, pendant 6 mois il se passe plus rien. Ça arrive à pas mal de monde, mais en moi la motivation, une fois qu'elle est baissée pour me refaire bosser sur quelque chose, c'est super dur. Et en fait je vais avoir tendance à procrastiner, à éviter, à faire des trucs comme ça. Et je pense que c'est un truc, je pense pas que ça soit négatif en soi. Parce que bon, ça fait que j'ai touché à pas mal de choses et qu'aujourd'hui je suis content de l'avoir fait. Mais de l'autre côté, il y a des choses qui sont en cours. Tu commences de nouvelles choses. Ça peut être un peu brouillon, quoi. Donc, c'est un problème de, je vais pas dire d'organisation, mais plutôt de motivation. Et donc, dans le TDAH, on dit c'est un trouble de déficit de l'attention, parce que t'as besoin, déjà la concentration est pas très longue, et t'as besoin de faire des choses différentes pour rester motivé, quoi.
Je comprends. C'est intéressant parce que ce que tu dis, moi aussi je le vis dans mon travail de product designer, où quand tu commences à réfléchir à un problème, tu te dis oh, c'est super intéressant, tu trouves des solutions, tu les fais, et puis quand tu dois faire les 5 derniers pourcents, tu te dis oui, bon, bah, c'est bon, on a déjà fait quasiment tout, allez, on passe à la suite. Mais ça fait vachement écho. Tu as dit plein de choses sur le travail de typo et de lettrage, sur lesquelles on va revenir dans le détail pour mm-hmm. bien comprendre. La seule question que je voulais me poser avant de rentrer dans ce détail-là, c'est là, on parlait de WordPress.
Mmh.
Et à quel moment tu fais du lettrage? Est-ce que c'est aussi quand tu faisais de la DA, tu découvres le lettrage? À quel moment ça arrive dans ton parcours?
Bah, ça arrive dans le blog qu'on a fait, la Beautiful Type, avec mon copain Aurélien. On était tous les deux des passionnés de la lettre déjà, du fait de notre... même dans notre travail web, hein, la lettre a une grande importance. Et puis nous, on a commencé à une période où il n'y avait pas les CSS3, donc tu pouvais pas encore mettre la police que tu voulais. Donc, fallait quand même feinter, faire des choses bien. On s'est vraiment beaucoup intéressé à ça. Et donc, quand on a créé ce blog, on a passé beaucoup de temps à faire de la veille pour ça. Et c'est vraiment là que le lettrage est entré dans le game, quoi, et que je m'y suis intéressé vraiment de plus en plus. Et comme il y avait un côté illustré souvent, que c'est pas forcément une lettre qui est c'est pas de l'Helvetica, le lettrage avec des caractères comme ça, c'est autant faire de la, autant utiliser une police de caractères. Moi ce que j'aimais bien, c'était vraiment les caractères qu'on voit qu'ils sont dessinés, que ils ont beaucoup d'émotions et des choses comme ça. Et donc bah c'est là où je me suis acheté un ou deux bouquins de typo, parce que je lis énormément, et donc en fait je me suis formé à plein de choses tout seul, mais avec une aide énorme de bouquins. Et donc je me suis acheté un ou deux bouquins de typo, un bouquin de Karen Cheng sur le design typographique, et puis un autre bouquin dont je me souviens plus le nom, qui doit être publié chez Ta Chaîne, et qui reprenait un peu des caractères des spécimens de plein de fonderies depuis très très longtemps, depuis je pense début 19e siècle. Et donc ce qui a été étonnant en fait, c'est que j'ai commencé, alors c'était pas Instagram, c'était Dribbble. Donc avant, je partageais mes travaux d'identité et de WordPress, et j'ai commencé à faire quelques dessins de lettrage que j'ai publiés sur Dribbble, et qui sont allés sur la homepage. Donc en ce temps-là, plus t'avais de likes, plus tu remontais, et puis t'arrivais tout en haut, quoi. Et donc je suis arrivé sur la homepage et je me suis dit, oh putain, enfin bon, ça a commencé comme ça. Je me suis posé des questions en me disant, bah finalement ça va pas l'air d'être si mauvais que ça, vu que les gens aiment bien. Et j'en ai fait quelques-uns, et puis bah ça a continué comme ça. Et puis bah moi j'appréciais au-delà du métier, le fait de prendre un papier, un crayon. Alors là aussi, je suis un vrai geek, c'est-à-dire que j'ai cherché le meilleur critérium, on va dire, que je pouvais. Enfin, j'adore tous ces trucs-là. Et comme quand j'étais artiste peintre, ben j'adorais trouver la bonne peinture, celle qui allait vraiment me correspondre. Et ben là, j'ai regardé ça pour les croquis, enfin le carnet de croquis, et puis aussi le crayon. Et puis je dessinais. Et là, franchement, c'est un univers qui est très 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 différent que l'univers numérique. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup accroché. Je crois que ça m'avait énormément manqué aussi depuis très très longtemps d'avoir, parce que finalement toi, la peinture est restée un petit peu, puis après WordPress et le web a pris toute sa place, j'ai envie de dire le début des réseaux sociaux et tout, et j'ai laissé le côté manuel de côté, et il est revenu en dessinant les lettres, et je voulais pas le lâcher, quoi. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que je décrochais un peu sur les projets WordPress. Je voulais de moins en moins ce travail et passer progressivement, quoi.
C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui tu en fais ton métier. Mmh. De lettres. Ok. J'ai juste une question pour toi. C'est quoi la différence entre du lettrage et de la typographie?
Alors, y a même un autre terme qui est calligraphie. Donc,
d'accord.
Dans mes cours, je fais la différence entre les trois. Parce qu'en fait, les trois sont très liés. Donc, c'est du travail de la lettre. Le lettrage, c'est un travail fait à la main, customisé de lettres. Donc, on va pas faire toutes les lettres de l'alphabet, ni les chiffres, ni les accents et tout. On va juste faire les lettres dont on a besoin. On va faire le mot ou la phrase dont on a besoin dans un style spécifique. le process va être un peu le même dans le sens où, enfin que la typographie dans le sens où on va faire les lettres au croquis, on va les noircir, on va les vectoriser. Mais on travaille sur un projet très spécifique sur un mot ou sur une phrase. Et on va faire les lettres pour ça. Et on va, si c'est un logo, bah ça doit être propre et lisible. Et si c'est une illustration typographique, donc quelque chose pour des affiches, des t-shirts ou des choses comme ça, ça peut être un peu plus déjanté, mais faire en sorte toujours que le message passe. Je crois qu'il y a ça aussi dans le lettrage, c'est un message à faire passer et trouver le style, là pour le coup illustratif, qui va bien coller avec le message à faire passer. La calligraphie, c'est de l'écriture, et la grande différence. Alors, nous, on a un style qui s'appelle le brush lettering, qui est de la calligraphie, mais qui est quand même dans la famille du lettrage. Et en fait, la différence entre la calligraphie et le lettrage, c'est que la calligraphie, c'est écrit, et le lettrage, c'est dessiné. Donc, on dessine. Et pour la typo, on dessine des lettres aussi, sauf qu'on va faire tout le caractère 7, donc toutes les lettres, dans un style identique. On va travailler les chiffres, les caractères spéciaux, tout ce qui est ponctuation et tout. Et on va devoir ensuite travailler la gestion des espaces entre les lettres pour faire en sorte que toutes les lettres fonctionnent avec toutes les lettres. Ensuite, on va faire le crénage, c'est-à-dire qu'on va travailler des spécificités entre certaines lettres. Donc, par exemple, quand tu as un T majuscule, toutes les lettres comme le A, le E qui viennent après, on va essayer de les faire rentrer un peu sous le T pour pas avoir un trop gros écart. Donc ça va être le crénage. Et puis voilà, c'est déjà beaucoup. Et après, on va créer un fichier OTF, principalement, qui va être une police de caractère. Et la grosse différence, c'est qu'ici, c'est vraiment un boulot d'ingénierie. Donc, on va même avoir du code en faisant de l'open type, tandis que du lettrage, c'est vraiment papier ou iPad. Et puis après, on vectorise ou pas, mais ça reste quelque chose d'assez... loose, quoi. On est vraiment dans quelque chose d'assez spécifique.
Justement, tu peux nous expliquer un peu les étapes, parce qu'en préparant l'émission, moi j'ai un peu vu toutes les étapes par lesquelles tu passes. D'abord pour le lettrage, le lettering, quelles sont les étapes? Tu parlais de dessiner, mm-hmm. Tu parles de numériser aussi, il y a de l'illustrateur aussi dedans. Quelles sont les étapes pour...
Alors, on commence par des croquis. Moi, je commence toujours par des petites vignettes pour voir où je vais aller, ce que j'ai envie de faire. Donc ensuite, je sélectionne une ou deux pistes que je vais développer donc et faire en plus grand. Donc je vais essayer de la faire sur un format A4, toujours en papier. Enfin quoi que, on va revenir après sur l'aspect iPad parce que ça a pas mal changé, mais j'aime bien toujours utiliser le papier. Et puis ensuite, je finalise un peu ça. Je montre au client, on choisit une piste. Et après, je fais une version finale papier que je vais scanner. Et ensuite, je passe sous Illustrator. Et sous Illustrator, je vectorise. L'autre possibilité que j'utilise de plus en plus, c'est l'iPad. Donc, l'iPad et Procreate, où je fais, surtout pour des illustrations typographiques, où on veut des choses un peu plus texturées, un habillage illustratif. Je vais bosser sur Procreate quasiment directement. Des fois, je vais peut-être faire le croquis à la main, mais c'est pas sûr. Je fais du Procreate autant que je peux. S'il n'y a pas besoin de vectorisation, j'aurai tout fait sous Procreate. Et s'il y a besoin de vectorisation, je passe sur Illustrator. Je fais soit une vectorisation dynamique, si on veut garder le côté texturé. Et s'il faut que ça soit propre, je fais comme pour un logo ou comme pour le dessin, je fais une vectorisation avec la plume et les courbes de Bézier.
Je mettrai dans la description du podcast une explication que tu as faite pour Adobe, où justement tu repasses sur tout ton process de création de lettering. Je sais que sur le podcast, c'est un peu compliqué d'expliquer un peu tout ce que tu fais, mais en tout cas, je le mettrai comme ça si les gens veulent aller voir comment tu travailles, ça y sera. Et alors du coup, la différence avec le travail que tu fais quand tu fais une police d'écriture?
En fait, la différence, c'est que la police, ça demande beaucoup plus de temps, quoi, déjà. Et puis surtout, il y a des lettres que j'affectionne et d'autres que j'affectionne moins. Donc, moi, j'ai tendance à commencer par l'alphabet minuscule, donc les bas de casse. Et donc j'adore le A minuscule, donc j'ai tendance à faire le A, mais après très vite je passe sur le H, le N et le O qui sont des lettres repères qui vont permettre de développer les lettres suivantes, c'est-à-dire que le O va te permettre d'approcher toutes les lettres qui ont un côté un peu arrondi et le N va te permettre ou le H va te permettre d'approcher le H, le N, le M, en fait, avec ces deux lettres-là, tu arrives à faire la moitié de l'alphabet en changeant quelque chose, mais tu as une bonne, un bon process, quoi. Et je vais faire toutes les minuscules, je vais faire ensuite toutes les majuscules qui sont généralement plus faciles à faire parce que il y a moins de diversité stylistique.
Et juste quand tu dis que tu fais ces lettres, c'est tu les dessines à la main, tu les fais sur Illustrator, d'accord?
Non, je fais tout à la. Alors là, pour le coup, les polices c'est beaucoup beaucoup à la main. Mais bon, ça va dépendre de la police. Il y en a où j'ai bossé tout à la main parce que c'était le style. En fait, ça va dépendre du style. Il y en a d'autres où j'ai envie de faire un truc très vite. J'utilise beaucoup. Je fais ça assez dernièrement. J'ai des idées en lettrage qui se transforment en des idées de police. C'est-à-dire que là, par exemple, dernièrement, j'ai développé des lettrages avec un style assez boisé. J'ai envie de dire boisé. Avec des rainures qui font un peu style.
Bois.
Et donc je me suis dit pourquoi pas développer une police à partir de ça. Donc là j'ai commencé par l'iPad parce que ça va quand même un peu plus vite. Et j'ai fait toute une ribambelle de lettres. J'ai presque fait toutes les lettres. Et après je passe soit sous glyphe, soit sous font self, selon la police que je vais faire. Donc en fait, si je fais quelque chose comme là, l'histoire avec le bois, or c'est un peu compliqué à expliquer parce que en fait les deux outils sont utiles. Donc font self, c'est un plugin sous Illustrator qui te permet de faire une police de caractère à partir de lettres vectorisées sous Illustrator. Donc il y a une sorte de drag and drop, tu prends ta lettre, tu la fous, il y a une grille avec un alphabet. Tu la fous dans la bonne lettre et puis tu as créé ta lettre, enfin tu crées ton alphabet comme ça, quoi. Et le gros avantage de cet outil, c'est de voir très très vite ce que ça donne. Et l'autre gros avantage, c'est qu'ils ont une sorte d'algorithme qui te fait le spacing et le kerning, donc l'espacement et le crénage automatiquement. Enfin, quasi, faut appuyer sur un bouton, mais eux font tout. Donc ça te permet aussi de voir rapidement si l'ensemble est cohérent, si en typo comme en lettrage, on regarde souvent le contraste. Donc en fait, on va essayer de voir qu'il n'y ait pas des gros pâtés noirs, que l'ensemble soit équilibré en stress, en lumière, en couleur, des choses comme ça. Et en fait, cet outil, moi, me permet très rapidement de voir les choses, alors que dans Glyph, il va falloir que j'importe toutes les lettres une par une, que je les mette bien à la bonne taille, que j'agence tout comme il faut, que je crée mon alphabet, et j'aurai pas d'espacement et pas de crénage, et il va falloir que je fasse tout à la main. Donc pour avoir un premier aperçu, pour moi ça prend beaucoup de temps avec Glyph. Par contre, donc là c'est pour des trucs un peu texturés, un peu simples, un peu fun, je vais passer par font self. Par contre, dès que je bosse sur quelque chose qui est beaucoup plus classique, avec un gros travail sur les courbes de Bézier pour que les courbes soient parfaites ou des choses comme ça, là je vais bosser sur Glyph parce que l'outil est vraiment conçu pour ça, contrairement à Illustrator. Et donc je vais pouvoir après gérer mes lettres une par une de manière très très précise. Et l'autre avantage de Glyph par rapport à ça, c'est que je peux utiliser OpenType, donc faire des ligatures. On peut aussi les faire dans FontSelf, mais travailler un peu, faire des alphabets alternatifs par exemple, c'est-à-dire que si je fais une écriture un peu manuscrite, faire en sorte que j'ai 4 sets de lettres pour que si j'ai 3 A dans le même mot, bah que ça soit pas le même A, qu'on ait repris le A de 3 sets différents, enfin des choses comme ça, et là faut coder un peu, et donc du coup là j'aime bien faire ça dans Glyph, donc c'est un peu voilà, je bosse un peu sur les deux en même temps.
C'est un sacré taf en fait de créer une police d'écriture entre ce que tu dis, les lettres, les ligatures. J'imagine que tu as les lettres aussi avec accents qui ne ressemblent pas à la même chose, les lettres avec des
signes. Ouais, en fait, tu fais les accents indépendamment des lettres.
D'accord.
Donc en fait, si tu te rends bien compte, quand tu appuies sur ton clavier, à part certaines lettres, par exemple, si tu veux un accent circonflexe, tu appuies l'accent en premier et la lettre après. Mm-hmm. Donc en fait, là, on appelle ça les diacritiques. Sont créés séparément pour pouvoir être capable de mettre l'accent sur n'importe quelle lettre. Mais il faut prévoir l'espace, enfin, faut que ça fonctionne, quoi. Donc,
Et j'avais vu aussi, t'as bossé, enfin, t'as fait tes propres polices, et j'ai regardé, c'est Basalt, il me semble, où c'est là où, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, quand t'as un T qui est trop grand, t'essayes de placer une autre lettre en dessous. Ouais. C'est, ça aussi, j'ai regardé sur ton blog, et je mettrai le lien dans la description pour les gens que ça intéresse. Ça a l'air d'être un sacré taf, parce que pour deux lettres, en fait, tu as une multitude de compositions.
Voilà. Bah pour Basalt, t'as, si je me trompe pas, il y a 700 glyphes à peu près, dont 400-500 ligatures différentes.
Donc pour 26 lettres ?
Ouais, au départ, ouais. Ce qui se passe, c'est que je fais des ligatures sur 3 caractères. Donc, enfin, pas pour toutes les lettres de l'alphabet, mais pour une grosse partie. Mais je le fais sur, enfin, dans Basalt, en tout cas, je le fais pour 3 lettres. C'est-à-dire que le T, si t'as un T, un D et un A, par exemple, je vais faire une ligature pour le T, D, A. Donc, TDE, TDI, TDO, TDU, enfin, tout, voilà. Donc, ça monte très, très vite, quoi.
Et c'est un travail que tu fais pour chacune de tes polices d'écriture?
Oui, malheureusement, oui. Okay. Et je dis malheureusement parce que du coup, ça me prend beaucoup de temps. Et là, tu vois, même la typo bois sur laquelle je bosse, j'envisage déjà de faire des ligatures. Ça va de soi.
C'est ton process personnel qui veut ça, ou c'est une règle qui dit que quand t'as X lettres qui se suivent dans tel style, il faut que t'aies une ligature pour que...
Non. C'est moi qui aime ce genre de... En fait, ça se voit aussi dans mon lettrage. J'adore le style interlock. Donc j'ai le cours qui vient de sortir, enfin qui sort lundi chez Domestika.
Qui sera sorti au moment où l'épisode sortira.
Ouais. Et donc en fait j'aime beaucoup ce côté homogène, ce côté un peu bloc, de faire en sorte que il y ait pas trop d'espace. Que c'est en fait ça vient de tout mon amour pour le lettrage américain des années 50, 60, 70, qui utilisait beaucoup cette technique. Et du coup, moi, j'aime l'utiliser dans tout et n'importe quoi. Donc, en fait, je peux plus m'en empêcher. À un moment donné, si t'as un T et un A qui sont à côté de l'autre, je meurs. Même là, je vais au restaurant, je vois un logo avec un L et un F, hein, par exemple. Bah, pour moi, le F, il devrait aller dans le L, quoi. Donc,
des formations professionnelles.
Ah, complètement.
Tu viens de parler de ton style, c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand on parlait, tu disais que quand tu as commencé, tu cherchais plein de styles, tu essayais plein de choses différentes. Tu nous parles justement du style interlock qui est un peu le style des années 50-70 en Amérique. Comment justement tu as fait pour, à force d'essayer, de chercher, trouver ce style-là et te dire que c'était ton style et c'était avec ça que tu voulais continuer?
Alors, c'est assez simple en fait. C'est que j'ai découvert le. Par hasard, enfin pas par hasard, ma femme m'a offert la biographie de Saul Bass, donc grand graphiste et vidéaste des années 50, 60. Et donc on est parti au ski et pendant une semaine, moi je pouvais pas faire de ski parce que je m'étais niqué le talon d'Achille. Et donc je me suis mis à lire ce bouquin et je me suis dit mais oh là là, qu'est-ce que j'adore. En fait, Il y a un truc dans le lettrage. Quand moi j'ai commencé, c'était d'être techniquement bon. Donc il fallait que mes lettres soient nickel, que l'ensemble soit bien propre, que si je faisais quelque chose en script ou en manuscrit ou des choses comme ça, fallait vraiment que ça soit nickel et que les courbes soient parfaites, que les vectorisations soient. Enfin, il y avait une sorte de course à ça sur Instagram. Il y avait même des mecs, ça se voit beaucoup moins maintenant, hein, ça a vraiment évolué. Il y avait même des mecs qui mettaient en photo pas les courbes, mais les tangentes et les points d'ancrage, tu vois. Le côté pomme Y, là, je sais plus si c'est pomme Y ou quoi. Où en fait, tu vois sur l'ensemble de ton lettrage les courbes et les points d'ancrage et les tangentes pour montrer à quel point il y avait la technicité dans ce genre de choses. Et moi, je me disais, mais putain, il faut absolument que j'ai ces niveaux, quoi. Parce que c'est vrai que ça rendait vachement bien. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça a commencé un peu à me lasser. Ça devenait plus technique. Je vais dire plus technique qu'émotionnel. Et quand j'ai découvert le boulot de Solbach, je me suis dit, mais en fait, dans les années 50-60, si tu voulais faire du lettrage qui avait de l'importance, qui avait un impact, il fallait faire quelque chose qui soit humain. Et donc, quelque chose qui ne soit pas parfait. Et donc, je suis tombé complètement amoureux de son travail, que ça soit illustratif, d'animation et de lettrage. Et je me suis dit, mais ça prend totalement sens, en fait, pour moi, de lâcher un peu prise sur la technicité et de juste aller dans le feeling, quoi. J'ai rencontré ensuite une personne dans un workshop que j'ai fait sur Nantes à qui j'ai parlé de tout ça et qui m'a fait découvrir un mec qui s'appelle Alex Steinweiss, qui est le premier illustrateur à avoir fait des pochettes d'albums de vinyle illustrés, c'est-à-dire que avant qu'il arrive. Alors je sais plus si c'est chez RCA ou chez Columbia ou un truc comme ça, enfin une grosse maison de disques américaine. Et en fait avant c'était papier craft avec le nom de l'artiste et le titre de l'album ou du single. Et en fait je crois que c'est en 49 ou en 50. Lui est arrivé chez Columbia et il a fait les premières pochettes illustrées. Et son travail me parlait complètement par rapport à ce que faisait Solbach dans le cinéma, en fait. Et je me suis dit, mais... Enfin, je vais pas dire de gros, mais bordel, quoi. J'adorais ça. C'était les couleurs, les formes, les structures, tout parlait et tout était vivant, tu vois. C'était vraiment... on n'est pas dans quelque chose de super technique, froid, et je sais de quoi je parle vu que je bosse en Suisse, hein. C'est le style suisse, c'est vraiment quelque chose d'austère, de je veux dire, Bauhaus à côté, c'était vraiment des hippies, quoi. Et donc, quand j'ai découvert ce style-là, c'est là où je me suis intéressé au film, au cinéma américain des années 50, 60, 70. Et puis au graphisme en général. Et donc, j'ai commencé à changer mes publications sur Instagram pour aller vers des choses qui me plaisaient bien, la technique de superposition sur les lettres et des choses comme ça, ce qui a donné Farandole, ma première police. Et voilà, la première étape, elle était là. Et après, il y a eu une deuxième étape qui a été de commencer mes challenges de 100 jours.
Alors attends, justement, là, ouais. sur ta première étape... C'est-à-dire que comment tu as l'inspiration, tu sais d'où ça vient. Comment tu fais, tu copies ce qu'il faisait à l'époque pour essayer de te l'approprier, ou t'essayes de dire ah, il faisait ça et moi j'ai envie de faire ça. Et comment je vais comprendre d'où vient l'inspiration.
Ouais.
Comment ça se reflète dans ton travail? Est-ce que c'est de l'entraînement, de la copie, ou est-ce que tu fais totalement autre chose?
Non, c'est de l'entraînement. En fait, les lettres, je me suis mis à faire les miennes en essayant de m'inspirer de ce style. Et c'était pas très, vu que c'était pas difficile techniquement, c'était vraiment avoir le coup de crayon. Donc j'ai pratiqué énormément. Et puis quand j'ai découvert le boulot de ces artistes, on appelle ça le mid-century modern design, où il y avait aussi ce côté superposition de couleurs, bah là je me suis mis à dessiner des formes en fait plutôt que des lettres, et faire des lettres à partir des formes. Et puis c'est comme ça que j'ai appris à déconstruire complètement mon travail au fur et à mesure, c'est-à-dire penser les formes et contre-formes, des choses comme ça, et dans un style qui s'affirmait. En fait, ça a été une, je vais pas dire une explosion, mais ça a vraiment été un coup de cœur terrible, et je suis parti très très vite dans cet univers-là. Qu'on peut en plus utiliser sous plein de styles, plein de styles graphiques ou typographiques différents. Donc ça peut être du manuscrit, ça peut être. Puis bon, les États-Unis c'était très très riche en ce temps-là sur tous ces domaines-là. Je suis parti un peu dans cet environnement-là, tout en sachant que mes clients me demandaient pas ce genre de style.
On va en reparler de ça juste après.
Ouais, ouais.
Et du coup, tu parlais aussi de tes défis de 100 jours, c'est ça?
Mmh.
Donc, si j'ai bien suivi, et si je me suis bien renseigné, c'est pendant 100 jours que tu travaillais sur du lettrage ou des lettres.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi tu l'as fait, comment tu le faisais, etc.?
Alors, je l'ai fait... à la base, c'est un projet d'une personne qui s'appelle Elle Luna, qui a créé le 100 Days Project. Donc elle, c'est une femme qui a bossé chez, il me semble, chez Dropbox, dans pas mal de boîtes de la Silicon Valley, et qui se rendait compte que les gens bossaient beaucoup, mais avaient très peu de temps pour développer des choses qui leur paraissaient importantes. Et donc, elle a créé ce projet, pour faire simple, elle a créé ce projet pour permettre aux gens de dire, mais pendant 100 jours, vous allez passer une heure par jour à bosser sur un truc pour lequel vous n'avez pas le temps d'habitude. Et vous allez prendre ce temps, vous forcer à le prendre pendant 100 jours. Ça a été un succès phénoménal. Et moi, je me suis dit, je faisais déjà du lettrage, donc j'avais déjà le temps d'en faire, vu que je faisais que ça. Mais je me suis dit, ça peut m'aider à progresser, pratiquer tous les jours, ça peut vraiment m'aider à progresser. Et cette première année où je l'ai fait, ça a vraiment été un déclencheur de ce que j'aimais faire. C'est-à-dire qu'au début du challenge, j'ai fait un peu de tout, différents styles et tout, et plus j'avançais, plus je me concentrais autour de cette fameuse période des années 50-70. Et pour ne faire, au bout du 40e jour, je ne faisais plus que ça. Et je suis allé jusqu'au 100e jour avec toujours le max d'inspiration, le max d'envie et tout. Et c'est via ça que je me suis moi-même vraiment dit, mon style, je l'ai trouvé sans vraiment le chercher. Il est venu à moi par mon expérience et peut-être le destin, je sais pas trop. Mais et si j'avais pas fait ce challenge de 100 jours, peut-être que ce que j'avais fait avant serait peut-être un peu retombé parce qu'au quotidien, on te demande pas forcément beaucoup de choses comme ça. Enfin, ce que je pensais à ce moment-là, quoi.
Justement, tu en as légèrement parlé juste avant, c'est tes clients. Mmh. Donc toi, t'as fait du web, ensuite t'as fait du graphisme et tu t'es spécialisé dans la lettre. Tes clients, quand ils viennent te chercher, ils viennent chercher quoi? Tes compétences en graphisme, en DA, en lettering? Et est-ce qu'ils cherchent à recopier ton style ou ils veulent leur style à eux et ils demandent juste une expertise dans la lettre?
Alors, au début, c'était du lettrage en général et des choses qu'ils voyaient à gauche, à droite. Et qui voulait que je... Il me disait, tu vois, il y a un truc qu'on a vu, on aimerait bien avoir notre logo là-dedans. Est-ce que tu peux faire ça? Donc, pas de problème, je faisais. Et puis, depuis que j'ai fait mon premier truc, mon premier challenge de 100 jours, les gens viennent me chercher pour mon style, pour ma patte, en fait. Et donc... ça arrive encore où il y a des gens qui viennent en me disant, c'est assez étonnant en fait, parce que des gens viennent te dire on vient te chercher parce qu'on adore ce que tu fais, mais ils me demandent quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc ça, c'est toujours assez... Enfin bon, j'essaye de me dépêtrer de ce genre de trucs, mais ça arrive vraiment deux fois par an à peu près. Et sinon, écoute, c'est on adore ce truc-là. On veut que tu nous fasses un truc dans le même genre pour notre business, quoi.
Et ce qu'on demande, ça consiste en quoi ? C'est un logo, une affiche, c'est d'en faire
les deux. Ça peut être c'est soit alors moi j'appelle ça illustration typographique parce que c'est un travail plutôt illustré où on me demande de faire un lettrage pour un t-shirt, pour une affiche, pour des stickers, des choses très variées et ça peut être aussi un logo pour dernièrement, vu que j'ai fait mon dernier challenge orienté outdoor, là l'année passée j'ai eu quasiment que des projets outdoor, fabricant de planches de surf, association de randonnée, des mecs qui font des vannes, enfin là j'ai une boîte en Arizona qui fait des vannes, aménagées, pardon. Et donc, qui m'a demandé de faire une illustration pour eux. Enfin, là encore, le dernier challenge que j'ai fait, donc je l'ai fait trois fois. Celui de l'année dernière, il était vraiment très orienté nature, un peu santé mentale aussi, mais beaucoup nature. Il y a de plus en plus d'éléments illustratifs, donc pas de la lettre. Et les gens, en fait, j'ai découvert en le faisant que les gens, il y avait une demande pour ce genre de truc. Donc, donc pour répondre à ta question, c'est à la fois des logos, mais dans des styles un peu vintage, et des illustrations typographiques qui peuvent être dans différents styles que je fais, mais toujours dans ce que je fais, en fait.
Toujours dans ce que tu fais, très clair. Comme tu as dit, tu l'as fait trois fois, le challenge de 100 jours.
Ouais.
Est-ce que quand tu l'as fait la deuxième fois, tu as aussi attiré un nouveau public lié au fait que tu avais essayé autre chose ?
Alors, la première fois, c'était assez énorme parce que j'ai dû faire un truc genre 15 000 followers en plus en trois mois. Rien qu'à faisant mon petit croquis chaque jour. La deuxième année, j'ai fait croquis aussi. Donc, je faisais beaucoup de croquis sur mon compte Instagram pendant très longtemps. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai un peu plus séché parce que je me suis dit... en fait, c'était une amie qui s'appelle Chris Campe, qui est lettreur sur Hambourg, en Allemagne, qui m'a dit, allez, on va le faire, on va se motiver. En fait, ce qui s'est passé, pour tout te dire, c'est que j'ai été invité à un festival de typo à Berlin, où on m'a demandé de présenter, de faire un talk sur mon challenge, sur mes 100 premiers jours. Et à la fin de cette présentation, la personne qui faisait la modération a demandé au public, est-ce que ça vous brancherait de vous aussi de le faire. Et là, pouf, la moitié de la salle a levé la main. Et puis elle s'est retournée vers moi, elle me dit, et si on en faisait un autre ? Et puis là, j'ai dit, je dis pas oui, je dis pas non. Donc on est parti, et puis c'est comme ça qu'on a lancé le deuxième. Mais j'avais pas réfléchi, aux besoins que personnellement j'allais en tirer. Et ça a été plus difficile parce que je savais pas trop ce que j'allais y chercher, en fait. Et contrairement au troisième, où je me suis dit, plus de croquis, que de l'iPad, que une palette de couleurs, surtout un fond prédéfini, et puis on va parler nature. Et là, je savais où je mettais les pieds. Mais le deuxième, j'avoue, a été plus dur parce que je savais pas trop ce que j'y faisais, ce que je cherchais dedans. Mais ça m'a apporté énormément. Je pense que c'est un outil qui est très très utile quand tu as une panne de motivation. Parce que pendant 100 jours, tu dessines, tu fais quelque chose que t'es censé aimer. Hein. Faut pas le faire si t'aimes pas. Mais c'est quelque chose que tu aimes, donc ça te redonne la niaque. Ça te force à publier chaque jour parce que le but c'était aussi de publier chaque jour bien ou pas bien. c'était un peu ma thérapie pour sortir un peu de ce côté tout est beau et tout est merveilleux sur Instagram, de se dire bah je vais sortir des trucs moches et c'est pas grave. Et puis, bah, je sais plus où je voulais en venir, mais oui. Et donc c'est important pour ça et aussi pour avancer dans son style, pour quand on cherche un peu et que on se pose pas mal de questions, ça peut être très utile aussi.
Très bien. Tu sais quoi ? La question que je voulais te poser ensuite, c'était clairement comment fais-tu pour faire évoluer ton style ? Ce qui est la réponse que tu as donnée, mais est-ce que tu ne fais évoluer ton style que par les 100 jours de typo ou est-ce que tu fais d'autres choses pour faire évoluer ton style, pour y réfléchir ? Parce que quand on y pense, le milieu des années 50-70, c'est dans le passé, donc on n'y reviendra pas. Comment tu te réinventes ?
Eh ben, en trouvant ma propre voie, d'une certaine manière, mais en fait, je cherche pas vraiment. Je laisse les choses un peu venir. J'avais une discussion sur un Discord ce matin du podcast Sens Créatif, sur lequel je suis Patreon, et on avait cette discussion sur le style en disant que finalement, c'est faut être plus être guidé par ses envies. Donc c'est plutôt un environnement Sens Créatif, c'est plutôt un environnement d'illustrateur. Et donc il y a pas mal de monde des fois qui se pose la question de se dire ah, mais j'ai pas mon style. Si je veux réussir, il faut que j'ai mon style et tout. Et donc, ils se foutent un peu une pression énorme sur ça. Et je trouve que la discussion, c'était de se dire, mais en fait, faut se laisser guider par ses envies et par l'évolution de son propre travail et la maturité qu'on a autour de son travail. Et pas se mettre une pression énorme pour trouver quelque chose, une piste, et y rester dedans aussi. Parce que t'as des gens qui vont pouvoir faire toute leur vie la même chose. Moi, je connais des lettreurs qui ont un style bien précis et qui le font depuis 15 ans. Et puis d'autres, comme moi, où on se laisse plus guider par une maturité stylistique, mais qui vient assez naturellement, en fait.
C'est marrant ce que tu dis, parce que dans le podcast, j'ai reçu des illustrateurs, et justement, on a encore eu cette conversation autour du style, où eux me disaient, le style, c'est hyper important, parce que c'est comme ça qu'ils se distinguent, c'est ce qu'ils vendent, c'est ça. Et j'ai l'impression que toi, tu vas un peu... Un peu à contrario de ça en disant que c'est plus ton feeling et que du coup t'es pas obligé de t'enfermer dans quelque chose ou de dire moi je fais absolument ce type de choses là.
Alors je pense qu'ils ont raison, enfin c'est assez complexe comme sujet. Il y a des gens qui vont trouver leur style, c'est vrai que moi on vient me voir pour mon style, mais je veux dire, je le fais évoluer. Je vais pas faire un changement drastique, mais je me permets de le faire évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime faire ça et tout ça, et peut-être que demain, ben, je vais aller sur un truc un peu plus, enfin, un peu différent et tout, et ça va évoluer progressivement. Dans l'illustration, je sais pas s'il y a deux écoles. Moi, j'ai l'impression que chacun a sa patte, en fait, son style, et va le faire évoluer de manière très naturelle. Et parce que c'est des gens qui ont besoin de le faire évoluer. Donc, je pense qu'il faut se laisser la possibilité de tenter des choses un peu différentes quand on en a besoin. Et d'autres pour qui ils sont bien dans leur style. C'est une sorte, en fait, tu as ceux qui vont penser que trouver que c'est une sécurité. C'est une sorte de confort d'être toujours dans le même style. Ils sont dans leur zone de confort. Et puis d'autres pour qui, on s'ennuie très vite dans cette zone de confort, donc on va aller la chercher ailleurs. Et je pense que on a ça un peu partout. Et oui, effectivement, c'est important. C'est important pour certaines personnes, hein, encore là, de trouver son style. Les agents et les clients, enfin les agents aiment bien avoir des illustrateurs avec un style spécifique parce que pour monter leur catalogue, bah c'est un peu plus simple. Mais je pense pas que ça soit une fin en soi. C'est-à-dire que si tu te sens à l'aise avec ton style, que tu l'aimes bien et que tu penses que c'est comme ça que tu vas y arriver, bah vas-y. Mais je pense pas que ça soit obligatoire d'avoir un style bien précis à garder pendant toute ta vie, quoi.
Je comprends. Tu disais tout à l'heure que tu suivais, en tout cas que quand tu as commencé à travailler dans le lettrage, tu as suivi des formations. Est-ce que c'est encore aujourd'hui quelque chose que tu fais justement toujours dans cette optique de t'améliorer, de progresser, de découvrir de nouvelles choses? Est-ce que c'est encore quelque chose que tu suis?
Oui. Oui, je suis toujours des cours, en fait, plus sur la typographie, hein, plus sur le type design que sur le lettrage. Mais cela dit, y a des gens que j'adore, comme il y a notamment un lettreur espagnol qui s'appelle Ivan Castro, qui est devenu un ami depuis, qui a fait 2-3 cours en ligne chez Domestika sur des styles bien spécifiques. Alors lui, c'est pareil, il est dans le rétro et tout ça. Mais il a fait 2 cours, un sur le cinéma, sur les affiches de cinéma. Bah alors affiches de cinéma genre années 70, espagnol, italien, enfin des trucs très très spécifiques. Et moi, ça m'aide à découvrir ces univers, quoi. Ça m'ouvre encore d'autres perspectives. C'est pas tant sur la technique que sur l'inspiration, j'ai envie de dire. Et puis en type design, là je suis toujours des cours pour me perfectionner pour voir un peu le process aussi de différentes personnes, pour voir, parce qu'il n'y a pas un process, il n'y a pas une manière d'aborder les choses, donc ça peut me permettre d'améliorer mon propre process. Donc c'est là encore, c'est plus de la curiosité. Et j'ai même réfléchi là il y a quelques semaines à suivre un cours en ligne qui s'appelle Practica Programme, qui est un cours organisé par des type designers. Donc le Covid a permis qu'il y ait plein de cours en ligne, chose qu'on n'avait pas avant. Et donc j'ai hésité, mais bon, c'est un gros budget. Et puis là sur cette année, sur 2022, je souhaite pas me focaliser sur le type design, quoi, sur la typographie.
Tu veux te concentrer sur quoi?
Bonne question. La nature. Donc en fait, j'ai fait une grosse année 2021 en termes de boulot qui était bien bien stressante, et en fait, mon projet de 100 jours, d'une certaine manière, cette année, il va être dans la nature. C'est-à-dire que je me suis dit, alors je me lance peut-être un peu trop de défis, mais j'habite au pied des Vosges, et donc mon but est de faire 1000 km à pied pendant l'année, en faisant 10 km par-ci, 10 km par-là, et j'y vais 2 fois par semaine en ce moment, pour me ressourcer, pour me remotiver, trouver un nouveau souffle, même si je l'ai pas forcément perdu, mais après une grosse période de travail, j'aime bien faire un peu pas un break, mais faire une meilleure balance. Et donc il y a ça, et continuer l'illustration. Je commence à poster 2-3 trucs d'illustration pure, et de avancer encore plus vers le côté outdoor. Donc tout en fait se rejoint, c'est-à-dire que moi j'essaye de vivre un peu plus dehors et que mon travail se ressente un peu plus dans cette direction, quoi.
C'est bien, c'est ce que j'avais noté, et du coup je voulais te demander qu'est-ce qui te donne l'envie justement de partir plus vers de l'illustration de l'illustration pure que du lettrage illustré.
Alors c'est une sorte de mélange des deux. J'aime bien, je vais pas faire une illustration sans un lettrage. J'aime ce côté affiche, hein, tu vois, ce côté affiche de film ou de festival, c'est-à-dire que mêler le côté illustratif et le côté lettrage. Et je la replace encore là, mais c'est ce que je fais dans mon cours Domestika, c'est-à-dire que je fais une affiche pour un concert de jazz, et j'aime faire ce genre de choses, c'est-à-dire que j'ai fait des illustrations typographiques de plus en plus détaillées, où j'ai commencé à amener ce côté un peu illustration pure, et je développe maintenant ce côté de plus en plus. Mais pour l'instant, je garde le côté lettrage. Pour moi, le décor et la lettre fonctionnent super bien ensemble. Et si je me rends compte de plus en plus que s'il y a pas les deux, enfin s'il manque un des deux, ben il manque un petit quelque chose. Et pour tout te dire, j'ai filé à Domestika énormément de mes travaux, notamment de mon dernier challenge qui était sur fond beige. Eux l'ont aménagé en mettant des fonds de photos ou des choses comme ça, et je me dis, mais purée, il faut que je travaille plus ça, c'est-à-dire développer ce côté présentation, ce côté illustratif pur. que juste faire du lettrage noir sur fond beige, quoi.
Tu parles de ta formation Domestika, mais c'est pas la seule formation que tu as fait, puisque tu fais des fois des formations présentielles. Malheureusement, ouais. Avec le Covid, tu devais monter à Paris et on n'a pas pu se voir parce que les restrictions ont fait ça. Tu as sorti aussi un livre. C'est important pour toi de transmettre ton savoir autour, oui, de ce que tu fais?
Oui, c'est la chose la plus importante.
Pourquoi?
Bonne question. On m'a posé la même question il n'y a pas longtemps. J'ai fait, en fait, c'est bizarre. Même WordPress, tu vois. En fait, ma visibilité on va dire visibilité est due au fait que je partage d'une certaine manière. Et WordPress, j'ai découvert WordPress, j'ai fait mon blog et je me suis mis à écrire des articles en disant « Oh, j'ai découvert tel plugin, j'ai découvert tel thème. » Et les gens lisaient. Et j'adorais ça, partager et dire… En fait, il y avait un esprit communautaire derrière. Et garder les choses pour moi, ça m'a jamais intéressé. J'aime pas trop ce principe-là à la base. Et donc, j'ai toujours fait ça. Et quand j'ai commencé à faire du lettrage, très vite, j'avais envie de partager. Et donc, ce qui peut paraître bizarre, parce que on pourrait penser qu'il faut une grosse expertise avant d'enseigner. Et moi, je me suis dit, mais en fait, il y a déjà des choses que je pourrais enseigner à mon niveau. Et j'ai commencé à faire des ateliers par moi-même, qui étaient pleins à craquer pendant deux bonnes années. Moi, j'étais à moi-même en apprentissage, mais j'avais déjà pas mal de bases et j'enseignais ces bases. Et c'est comme ça que très vite Erol est venu me trouver, quoi.
Ah, c'est cool, hyper intéressant. C'est aussi le but de ce podcast, hein, c'est de pouvoir partager avec tout le monde des connaissances de chaque personne. Francis, j'avais une dernière question pour toi. Elle va sortir un peu de nulle part parce que je l'avais notée comme ça, je ne savais pas qu'on l'a posée. Tu fais des polices d'écriture. Toi, j'en ai noté deux sur les trois que tu as fait, c'est Loustic et Basalt, qui sont quand même des typographies très très graphiques. Je mettrai les liens dans la description pour que les gens aillent voir aussi. Quand tu fais ce genre de typographie extrêmement graphique, tu t'attends à ce qu'elle s'adresse à qui et est-ce qu'elle soit utilisée comment?
Ah là là, la question. J'aime le public des illustrateurs. C'est des gens qui sont par moments un peu... je sais pas comment l'exprimer, mais c'est pas démuni face à la lettre, mais qui aimerait maîtriser aussi ce côté lettre. Et donc, des fois, ils se retournent. Ben là, par exemple, tu vois, j'ai formé les graphistes et les DA et tout de chez Bayard Édition. Et donc, chez eux, il y a un gros intérêt pour le travail de la lettre, pour apprendre à faire des lettrages. Et on en est arrivé à un point où même dans cette discussion-là, on s'est dit, mais en fait, ça serait génial d'avoir des typos qui soient suffisamment customisés pour qu'on voit pas que c'est des typos et qu'on puisse penser que c'est des lettrages. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est donc le public, principalement, est un public d'illustrateurs. Mais, il y a quand même un mais, c'est que je le fais avant tout pour moi. Parce que j'ai envie de la Loustic, par exemple. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout pensé à la faire pour un public. Je l'ai fait parce que j'en avais fait des lettrages et qu'on m'avait dit plusieurs fois sur Instagram, et tu devrais en faire une police. Et comme c'est une police à calque, donc avec différents calques, ça a pris du temps. Mais je l'ai fait parce que je trouvais ça super fun à faire et vraiment original. Sans penser si ça allait. En fait, c'est pas un truc où j'ai pas un besoin de vendre à tout prix mes polices. J'aime bien faire un peu de revenus passifs sur les polices. J'en fais, et surtout sur la Loustic d'ailleurs. Assez étonnamment, c'est celle qui se vend le plus. Mais le but au départ, c'est vraiment de s'amuser, s'éclater, et parce que. Si demain tu me demandes de faire une police de corps de texte, c'est ce qui se vend le plus et où là je vais gagner le plus de thunes, ça m'intéresse, mais alors pas du tout. Je fais ça vraiment pour le fun, pour apprendre et voir où ça mène. Mais j'ai pas trop de... Donc, honnêtement, en fait, je me suis rendu compte, à chaque fois que tu fais ta police qu'elle est finie, il faut que tu fasses des sortes de mock-ups pour mettre en valeur. Et ça m'est arrivé sur ces polices-là, me dire, mais putain, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces polices? Et du coup, moi, j'ai un petit groupe de 2-3 amis autour de moi qui, eux, ont, du coup, ont l'œil un peu plus... Ouais, ils sont un peu détachés du travail au quotidien et qui, donc, eux, m'aident un peu à faire des... Ils m'ont aidé à faire des mock-ups et moi, à me donner des idées pour trouver des choses. Mais pour le stick, c'était assez simple. Pour Basalt, par exemple, moi, j'étais parti... C'est quelque chose d'assez anguleux, donc on n'est pas trop dans le vintage et tout, on est plutôt dans un côté un peu jeu vidéo. Moi, j'étais vraiment ancré sur cette police, ancré sur le Kufik, sur le travail de l'Atlas, un street artiste assez connu, et ce côté enchevêtrement. En fait, j'étais plus intéressé par le côté technique de l'interlock que de l'utilisation que les gens allaient en faire. Et c'est vraiment là mes amis qui m'ont aidé à trouver des utilisations, quoi.
Tu disais justement que tu n'aimais pas trop faire des typographies qui vont beaucoup se vendre et qui sont assez normales dans leur approche, on va dire, moins graphiques en tout cas. Et il me semble que j'ai vu que tu avais bossé pour des typos pour Adobe, qui en les voyant avaient l'air beaucoup plus beaucoup moins graphiques.
Tout à fait, ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de les faire, du coup, comme tu dis que
c'était la première.
D'accord.
Donc je savais pas du tout où je mettais les pieds et donc bah, j'avais envie de faire une... Enfin, en fait, j'ai voulu faire une script droite. Donc, j'ai fait une script droite. Et je m'en suis sorti. C'était sympa à faire. Vraiment bien. Et j'avais vraiment carte blanche d'Adobe là-dessus. Mais j'avais pas envie d'en refaire d'autres. En fait, mon style... Tu vois, quand je l'ai fait, j'étais encore dans la technique du lettrage. Et donc, mon style évoluant, allant vers des choses un peu plus lâchées, un peu plus imparfaites, j'ai pas envie de revenir vers des choses, pour l'instant en tout cas, vers des choses trop nickel. J'aime bien ce côté un peu différent. Et donc, forcément, c'est des choses qui se vendront pas énormément. Ça, c'est ce qui me plaît, quoi. Donc voilà.
Donc la première police, c'est ce qui t'a mis le pied à l'étrier, et le reste, c'est vraiment pour le kiff.
Ouais, c'était difficile, hein. Honnêtement, quand j'ai pris mon cours en type design sur BAL, c'est la première chose que j'ai montré au prof, c'était ce travail que j'avais fait pour Adobe, qui était un projet pour Adobe Stock. Et le prof m'avait dit, oh, comme premier projet, t'es fou, parce que déjà, c'est des lettres connectées. Donc c'est super, beaucoup plus compliqué que des lettres qui sont séparées, quoi. Et il m'a dit, tu laisses ça de côté. Enfin, je voulais le reprendre en fait avec l'œil de l'expertise et du cours pendant le cours. Il m'a dit, tu laisses ça de côté pour l'instant. Tu vas partir sur quelque chose d'un peu plus simple.
Ça marche. Bon, Francis, ça fait une bonne heure et quart qu'on parle ensemble. T'as donné plein d'informations, t'as donné plein de billes pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être s'intéresser plus à la typo ou au lettrage. Est-ce que t'as d'autres ressources que tu nous aurais pas données que tu pourrais nous recommander?
Alors, bah déjà, j'en ai parlé et c'était important pour moi, c'est cette biographie de Saul Bass. Franchement, je la recommande à tout le monde. C'est un travail graphique fantastique, c'est une histoire géniale, c'est un bouquin qui est très très gros, donc c'est pas facile à lire, mais moi j'adore lire, donc bouquin énorme ou tout petit, je lis. Donc ça, je recommande énormément. Et puis il y a un autre livre aussi que je recommande dans l'univers, il y en a deux, mais notamment, je vais en parler que d'un, c'est le livre d'une fonderie qui s'appelle House Industries, et c'est leur livre, c'est un livre qui est sorti, c'est une sorte de portfolio de leur travail, qui explique un peu tout leur process depuis la création de l'entreprise jusqu'à maintenant, les différents projets qu'ils ont menés, et ils ont une identité extrêmement forte, axée ou ancrée j'allais dire comme moi, mais c'est plutôt moi comme eux, dans le vintage, mais avec des couleurs fantastiques. Et c'est un bouquin vraiment très très beau livre. Ils ont fait un travail formidable et qui t'emmène dans un univers des hot rods, des stickers des années 70, 80, 90. Enfin, il y a plein de trucs super. C'est une énorme ressource graphique.
Très bien. Eh bien, je mettrai le lien dans la description une nouvelle fois. S'il y a des gens qui veulent te contacter pour parler avec toi de typo, de lettrage, on les renvoie vers où ?
Alors, soit sur mon site, francischouquet.com, et puis il y a un formulaire de contact. Mais mon site n'est pas à jour depuis un petit moment, donc pour me contacter, ça marche toujours. Mais pour me suivre, vaut mieux me suivre sur Instagram, c'est là où je suis, et Twitter, éventuellement. Mais pour mon travail, je suis plus sur Instagram. Et puis bah là, utiliser la messagerie ou l'email, ça fonctionne très bien.
Ça marche. Mais encore une fois, je mettrai tout dans la description. Merci beaucoup, Francis, pour ton temps.
Ben, merci à toi pour l'invitation. C'était super sympa.
C'était hyper cool. Et
je parle beaucoup, malheureusement, mais bon.
C'est le but. Je fais souvent parler mes invités beaucoup. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant. C'était un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et ça fait longtemps que je voulais faire cet épisode. Donc, je suis très, 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 très content qu'on l'ait fait. Et puis, je te remercie. Puis, je te dis à très bientôt.
Ouais, merci à toi. À bientôt.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.